tout de suite sur Radio Saint-Fée, Petites Échappées.
Petites Échappées, ce sont des chroniques, des reportages, des enquêtes, des créations sonores.
Des formats courts, moyens ou un peu plus longs pour profiter encore plus des pépites sonores sélectionnées par l'équipe de rédaction de la radio.
Petites Échappées, tous les mercredis de 15h à 16h et en rediff le dimanche de 8h à 9h.
Bonjour à tous et à toutes. Le Festival international du film de Rivière, Les yeux dans l'eau, avait lieu, vous le savez, du 13 au 23 mars dernier dans la Vallée. Je vous propose de prolonger l'expérience en allant voir les expositions qui se déroulent encore jusqu'à mi-avril et fin avril dans la Vallée. Deux expositions, la première qui s'appelle L'imaginaire de l'eau à l'atelier Carcavel, rue Archinard à Cray, qui rassemble les photos de Jean Larive, les peintures de Marie-Noël Gontier et les gravures de Philippe Tardy, et une autre exposition intitulée « Le lac » d'Antoine Picard, qui est photographe au campus de Heure, qui, elle, se prolonge jusqu'au 12 avril. Voilà, aujourd'hui, dans les petits échappés, sur Radio Saint-Féréole, on vous propose de fermer les yeux et de voir avec vos oreilles ces œuvres graphiques. Bonne écoute.
C'est une photo déjà qui baigne dans une luminosité plus sombre. Pourquoi c'est presque la nuit? Parce que c'est lors de la fête des feux de la Saint-Jean. Donc on est le 23 ou 24 juin 2022 sur la commune de Saillant. Donc c'est un lieu où chaque année, depuis des générations, sont organisés ces feux de la Saint-Jean. En général, il commence par y avoir des feux, ou un feu, pour les plus jeunes. Avant, une fois que la nuit est vraiment tombée et que la soirée est avancée, un feu pour les plus grands. La tradition veut que les gens sautent par-dessus les flammes. Et donc dans ce contexte, et c'est ce que représente cette photo, deux jeunes filles qui sont descendues au bord de la rivière, qui est toute proche du lieu où se tiennent ces feux, et qui sont en train de se mouiller les cheveux dans la rivière, ce qui est une pratique habituelle pour les jeunes filles aux cheveux longs qui vont aller sauter par-dessus les flammes. Donc la photo a été réalisée depuis le haut de la berge, en plongée, pour représenter ces jeunes filles qui plongent leurs cheveux dans la Drôme.
Il y a une grande ligne transversale.
Oui, c'est de la rubalise. Il y a quelque chose qui a à voir aussi peut-être à travers cette rubalise qui est malgré tout flou et qui n'est pas l'objet principal de la scène. Quelque chose qui a à voir aussi avec les interdits. Je pense aussi qu'à cet âge, elles bravaient quelque chose qui n'a lieu qu'une fois, enfin qu'elles ne peuvent faire qu'une fois par an. Et cette rubalise est là aussi pour dire ça, quoi. Une espèce de moments un petit peu particuliers où ce qu'on n'a pas l'habitude de faire est autorisé ce soir-là. Je m'appelle Jean Larive, je suis photographe, membre de l'agence Myop, qui est une agence de photojournalisme et de photographie documentaire. Ça fait 12 ans que je suis photographe. J'ai commencé par enseigner la philosophie avant, et désormais je poursuis cette observation du monde et de l'humain à travers l'image, sur des sujets essentiellement tournés vers les questions sociales et environnementales.
Jean, est-ce que vous pouvez m'expliquer la thématique de cette exposition ?
En fait, elle est née d'une volonté de regarder les cultures de l'eau, tous les gestes, les comportements, mais ça inclut aussi parfois le vocabulaire, qui sont liés à l'élément eau au sein de collectivités humaines et de territoires. J'ai voulu faire ce travail dans la Drôme parce que j'avais déjà un précédent. J'avais fait un travail plus artistique, on va dire, un peu moins documentaire, sur la rivière, qui s'appelait « Les fragments d'Osvaldo ». Et j'avais envie de poursuivre cette approche du milieu de la rivière Drôme, avec un travail plus abouti sur les acteurs, ceux qui gèrent la rivière, ceux qui utilisent son eau, Et de fil en aiguille, je me suis dit qu'il ne fallait pas que je me limite à la rivière, parce que dans un contexte de bouleversement climatique, c'est toute la filière eau, finalement, qui est impactée. Et ce qui m'a intéressé ici, c'est aussi de m'intéresser, de couvrir des choses aussi diverses que les problématiques des canaux ou la distribution de l'eau au niveau des villages. C'est du noir et blanc parce que, plusieurs raisons, ça m'a semblé évident qu'il fallait que je retire en quelque sorte la couche de couleur pour pas avoir quelque chose de trop joli. Passer au noir et blanc, c'était retirer une couche un peu pittoresque ou jolie de couleur. Voilà, ça m'a permis de renforcer l'attention qu'on peut porter aux gestes, aux attitudes et à la place, je crois, aussi des corps dans l'espace. Sur ce travail, j'ai été souvent sensible à ça. Je voulais vraiment à la fois photographier des instants, mais aussi des espaces. Et essayer de tenir un petit peu le milieu entre deux traditions photographiques, pour le faire très vite, qui s'intéressent tantôt plus à l'un, tantôt plus à l'autre. Alors, c'est une photo qui s'appelle « Rituel chamanique de la mue ». La photo montre deux personnes, un homme et une femme, au bord de la rivière. On voit la femme qui est vêtue, penchée en avant, en train de finir d'appliquer sur le corps de l'homme, qui lui est nu, de la boue. C'est un rituel qui consiste à s'enduire le corps de terre et de boue, à laisser sécher cette sorte de glaise, et ensuite demander à la rivière de laver le corps et symboliquement donc de régénérer toute la personne. Voilà. Donc c'est une photo qui représente ce couple dans cet environnement. C'est un moment d'intimité. Puisqu'il y avait aussi il y a la nudité de l'homme qui est accroupi, donc la photo reste très pudique. Et c'est un moment très particulier parce que j'ai fait l'ensemble du reportage entre avril et août 2022. Et sur les 4 mois, en gros, où je suis resté ici, ça a été le seul jour, fin juillet 2022, où il a plu. Et donc, il a fallu que ce soit à cet instant-là, dans ce moment-là, dans une petite vallée qui est du côté de la Roanne, qui se mette à pleuvoir, juste au moment de ce rituel. Donc, c'est vraiment un petit côté magique. Et ça renforce ce que je voulais en approchant ces personnes, et Emmanuel en particulier, qui est la femme et qui est femme médecine en chemin. C'était aussi pouvoir porter un regard sur la dimension spirituelle de la rivière et ce rapport très particulier à l'eau qui se nourrit à la fois de symbolique et d'imaginaire.
J'ai frotté un arbre dans mon jardin avec des pastels de couleurs de bleu différents et j'ai obtenu comme une grande eau mouvante, hein, une grande surface d'eau mouvante, ce à quoi je ne m'attendais pas du tout. Et donc c'est vrai qu'en collage, j'ai en quelque sorte esquissé une île par-dessus. Mais donc ce tableau est devenu en fait un tableau de l'eau, alors qu'au départ c'était plutôt un frottage sur un arbre. Je m'appelle Marie-Noëlle Gontier, je suis peintre, je fais de la gravure aussi, je travaille beaucoup le collage et puis les frottages sur les pierres et sur les arbres. Il est en quelque sorte une fréquentation très régulière d'un lieu, à un moment donné, pendant toute une saison par exemple, qui fait que se tisse vraiment un lien de proximité, d'intimité vraiment particulier avec l'élément, donc que ce soit un arbre, une rivière ou une colline. Et c'est vraiment très très important pour moi, ça habite vraiment mon travail en fait. Je suis très très sensible au torrent parce que j'aime aussi beaucoup la montagne. Et donc c'est tous les sens qui sont en éveil, qui sont sollicités. Et ça éveille énormément d'imaginaire avec forcément la vue, donc tous les reflets, les scintillements, la transparence, etc. Alors il y a aussi l'ouïe qui est très très importante avec le fracas de l'eau sur les rochers. Et ça, je trouve ça aussi quelque chose d'absolument extraordinaire et très très prenant. Il y a aussi le goût, parce que quand l'eau a forcément le goût, un petit peu, bon, des fois de la vase ou des herbes, des berges, mais aussi beaucoup des rochers qu'elle frotte en fait. On a des fois un goût minéral. Enfin, donc c'est vraiment très très intéressant, puis très complet, parce que bon, après si on se baigne, c'est encore autre chose. Et voilà, donc c'est vraiment un élément assez fascinant, je trouve. Ça m'évoque en fait ce qu'a écrit dans un très beau livre dont je ne me souviens pas exactement le titre, c'est Jean Bazaine, donc un peintre, et qui dit que, donc, j'essaie de me souvenir exactement comment il dit que le peintre finit toujours, en aiguisant sa sensibilité, il finit toujours par se rendre compte que les remous de l'écorce et les remous de l'eau sont parents. Donc, ce qui est très beau, il dit même d'ailleurs, il ajoute que jumeaux...
La vraie sensibilité commence lorsque le peintre découvre que les remous de l'arbre et l'écorce de l'eau sont parents, jumeaux les pierres et son visage, et que le monde, se contractant ainsi peu à peu, il voit se lever, sous cette pluie d'apparence, les grands signes essentiels qui sont à la fois sa vérité et celle de l'univers. Jean Bazaine, note sur la peinture d'aujourd'hui, 1948.
Je m'appelle donc Philippe Tardy, je suis lyonnais et ça fait 40 ans donc, que je grave, je peins. Voilà, j'essaie d'en vivre. C'est un vieux métier, la gravure l'eau-forte sur cuivre. En fait, l'eau-forte, c'est l'ancien nom de l'acide, du mordant qu'on va utiliser en fait, pour graver dans le métal, en l'occurrence du cuivre. Le cuivre, c'est le matériau de prédilection des graveurs de tout temps, même si on fait ça sur zinc ou quelquefois sur acier. Rembrandt, c'est celui qu'on désigne comme notre maître à tous avec Goya. Nous sommes des suiveurs, hein, nous les graveurs. Comment on fait ? On prend une plaque de cuivre qu'on va polir ou pas, et on enduit cette plaque d'un vernis liquide ou en boule, en fait. La plaque, une fois vernie, le vernis est sec, et avec une pointe, on va s'appliquer à dessiner. Et en fait, c'est la pointe qui va griffer le métal en enlevant le vernis et découvrir ainsi le cuivre. Donc, au bout de quelques temps, on aura un dessin presque comme un négatif, hein, sur la plaque de cuivre recouverte toujours du vernis sombre et noir. Ensuite, après, il va y avoir le passage dans l'eau forte, c'est-à-dire dans l'acide, le perchlorure de fer ou l'acide nitrique. Donc, plus ou moins de temps selon la profondeur qu'on veut obtenir dans les tailles suite à la morsure. Une fois que l'image va être gravée, chaque petit trait en fait va être un canyon ou un trou ou un creux. On va rincer la plaque de cuivre et puis après on va enlever avec un diluant le vernis et on va découvrir le dessin gravé et la matrice en fait. Ensuite après la deuxième période, ça va être en fait l'impression. Alors impression en noir et blanc ou en couleur sur des papiers différents. Et la gravure, c'est un multiple. dans un voyage en Amérique du Sud, au Paraguay, j'ai rencontré un fleuve qui s'appelle le Parana. Et rentré en France, je me disais qu'il fallait mettre tous ces souvenirs dans un opuscule, dans un livre, mais je ne savais pas bien comment. Il y a eu la rencontre après entre un éditeur et un écrivain qui ont abouti à un grand livre d'images avec une thématique qui était le fleuve et le titre « Eau forte, l'imaginaire du fleuve, des fleuves ». Il y a une trentaine de gravures dans cette exposition issues du livre. Je veux parler d'une gravure qui s'appelle la croisière, alors qui est un peu japonisante. C'est-à-dire que c'est une gravure qui est verticale. C'est un petit bateau, en fait, à vapeur, un peu issu d'un dessin animé, qui part faire sa croisière. Et il y a une ouverture au fond, à l'horizon, en fait, à droite et à gauche. Il y a deux énormes montagnes qui semblent s'écarter pour laisser passer le petit bateau qui va aller faire une croisière très importante vers le large. Et ce petit bateau, il est à vapeur et il semble aller assez loin, en toute confiance vers un voyage. C'est une gravure qui m'a été un peu donnée, notamment par le souvenir d'un film de Herzog qui s'appelle Fitzcarraldo, c'est ça. Ça doit être marqué quelque part en haut, à droite. Il y a beaucoup de détails dans les gravures qui parfois expliquent l'image. C'est un travail là sur l'imaginaire. C'est une gravure en deux plaques, une plaque de fond, une plaque de trait. Et avec trois couleurs, bleu, jaune et puis un brun. Voilà. C'est une gravure que j'aime bien parce que ça fait un peu dessin animé, fait un peu Kirikou. C'est un peu la ligne claire, mon style. Voilà, donc c'est un peu un style assez complexe parce que je ne peux pas tout dessiner, je ne sais pas tout dessiner. Je sais dessiner certaines choses, des forêts, des arbres, des grues, du poisson. Puis pas grand-chose d'autre. Cette gravure donc s'appelle La Croisière. Un ami m'a dit que ça pouvait évoquer quelque chose de comme la naissance, voilà. Et je suis pas contre cette idée.
Ça, c'est une photographie qui est un peu une photographie phare du projet. Et je l'utilise notamment pour communiquer dessus parce que tout de suite, on voit la présence du lac dans le paysage. Donc, c'est une photographie plutôt prise en contre-jour dans une lumière un peu d'hiver. Et on voit le lac qui prend sa place comme ça au milieu des collines, comme si les collines moulaient la forme du lac. Au milieu de l'image, au milieu du lac, on voit une petite île. Et en fait, c'est la seule île du lac. Il y a une histoire assez traumatique, mais qui est assez belle d'un point de vue littéraire. C'est qu'en fait, sur cette île, qui était donc une colline avant la présence du lac, on avait un château, une grande bâtisse qu'on appelait le château. Et en fait, les habitants ont eu l'ordre de détruire leur maison, comme toutes les maisons qui devaient être inondées. Ils ont attendu le dernier moment pour le faire. Et donc forcément, l'acte de détruire la maison a rehaussé la colline, qui est devenue en fait un tas de pierres. Et c'est cet acte de destruction qui a fabriqué en fait la seule île du lac, puisque c'est par ce rehaussement que c'est devenu une île. Donc c'est un peu comme un monument involontaire comme ça à cette maison et à cette histoire. Et donc, je suis allé sur cette île pour photographier les traces de cette maison, c'est-à-dire, en fait, j'ai cherché les pierres qui étaient taillées pour que le spectateur comprenne tout de suite que ce n'est pas n'importe quelle pierre, que c'est une pierre d'une bâtisse. J'ai fait plusieurs photographies de pierres taillées. Alors ce projet du lac, je l'ai démarré en 2019 et en gros il s'est déroulé jusqu'en 2024. Donc il y a eu 5 ans de travail sur une vallée, la vallée du Salagou, qui est dans l'Hérault et qui a été immergée par un lac de barrage il y a 50 ans. C'est-à-dire qu'au début, c'était un petit ruisseau qui serpentait au milieu des collines, plutôt des collines assez, assez sèches, assez proches de Montpellier. Et du coup, les pouvoirs publics ont décidé de créer un lac à cet endroit-là. Et donc, ils ont choisi un endroit pour faire un barrage. Et du coup, un barrage, l'eau monte, les gens sont expropriés. Donc, il y a vraiment toute une vallée. Il y a à peu près 700 hectares qui ont été noyés. Donc, il y a toute une vallée qui a été évacuée. C'est des fermes qui ont été évacuées, donc plusieurs maisons. Et puis des terres agricoles, voilà. J'ai pris surtout des photos en fait de paysages et des bords du lac. J'ai vraiment fait le tour du lac à aller chercher des motifs très précis comme ça dans le paysage. Et j'ai aussi interrogé plein de gens différents, que ce soit des habitants, des nouveaux habitants, des anciens habitants, des personnes qui ont vécu l'expropriation, mais aussi des scientifiques, un ornithologue qui va étudier les nouvelles espèces d'oiseaux qui sont arrivées par la présence du lac. Des personnes par rapport à la question du tourisme, puisqu'aujourd'hui c'est un lac principalement touristique. Et donc j'avais envie de cette vision un peu à voix multiple pour rendre compte aussi de la complexité de ces questions-là et d'un territoire comme ça qui a été complètement bouleversé. J'ai ressenti le besoin de rentrer sous les eaux pour trouver des traces de la vie d'avant.
Tu as plongé?
Eh bien, alors, j'ai pas plongé moi-même, mais j'ai travaillé avec un pêcheur-plongeur qui a été un vrai partenaire sur le projet, qui a été aussi un guide et avec vraiment l'idée du passeur. C'est vraiment lui qui permet de passer d'un monde à un autre. Et qui permet de fouiller dans la mémoire immergée. Enfin, on s'est très bien entendu, mais c'est devenu une figure un peu centrale, importante du projet. Il y a un portrait de lui dans le livre. Et en plus, ce qui était fascinant, c'est qu'il travaille en apnée. Donc sans appareillage compliqué, il faut qu'il rentre dans un état particulier pour rentrer dans la mémoire. Et voilà, il plonge sous les eaux. Il choisit bien la période où les eaux ne sont pas trop troubles. Et il est allé chercher soit des vestiges de pierre ou soit des arbres qui n'ont pas été coupés, donc qui sont encore là, ils sont encore debout. Depuis 50 ans, ils restent là, comme momifiés. Et puis aussi des poteaux téléphoniques, un panneau de signalisation d'un des hameaux qui est au-dessus du lac. Moi, je lui donnais les consignes de ce que je voulais qu'il aille chercher sous les eaux. Il me ramenait des images. On en parlait, je lui disais plus comme ci, plus comme ça. Et on a avancé comme ça pendant plusieurs mois, voire même plusieurs années. Il a été un peu mes yeux sous l'eau. Voilà.
Et donc, toutes les photos sous-marines sont en noir et blanc?
C'était aussi pour contraster, pour bien faire sentir qu'on passe d'un monde à un autre. J'ai remarqué que, et ça m'intéressait, que les spectateurs, ceux qui voient l'image la première fois, ne se rendent pas forcément compte tout de suite que c'est des photos qui sont prises sous l'eau. On a plutôt l'impression d'un brouillard. Et y a une on se concentre pour se demander mais comment ça se fait qu'elle a cette texture-là, ce brouillard-là. Et en fait, en regardant mieux l'image, on se rend compte que dans le sol, on voit des coquillages, on voit des petites algues. Donc on finit par comprendre qu'on est sous les eaux. Et j'aimais beaucoup ces deux niveaux de lecture en fait, de l'image. Ce qui était très intéressant, c'est que les entretiens que je menais orienté mes recherches et mon regard quand j'étais dans le paysage. Et du coup, j'ai cherché un petit peu dans le paysage par des détails, des échos en fait des histoires qu'on me racontait. Il y a quand même une histoire assez forte autour d'un village, le village de Selles, qui est que, en fait, ce village, il a été évacué de ses habitants parce que les ingénieurs avaient prévu qu'il serait inondé, que les eaux monteraient au-dessus. Et en fait, il se trouve, c'est assez mystérieux, pourquoi ? Il y a un peu des rumeurs, mais il se trouve que l'eau n'est jamais montée au-dessus du village. Donc en fait, le village a été évacué pour rien et il est tombé en ruine. Les habitants ne pouvaient plus y retourner, bah, puisque le village ne leur appartenait plus. Il appartenait au département qui avait exproprié tout le monde. Et donc, il a été pillé. Et aujourd'hui, donc, 50 ans après, c'est un magnifique village au bord d'un lac magnifique, mais en ruine et enfermé derrière des grillages protecteurs. Donc, il y a toute une histoire pendant ces 50 années, et notamment une histoire de lutte de la population. Et en 2019, l'année où j'ai démarré le projet, donc vraiment 50 ans après, ils ont fêté l'arrivée des trois premières nouvelles familles. C'est-à-dire que cette lutte de 50 ans a porté ses fruits et le village, entre guillemets, renaît de ses cendres. Moi, ça m'a fasciné, en fait, cette histoire de l'immersion de la vallée et particulièrement cette histoire du village, puisqu'il y avait une notion qui m'intéressait, c'était la notion de colonisation, comment on vient coloniser un espace, le remplacer par un autre, remplacer le milieu aérien par un milieu aquatique. Et donc, dans tout acte de colonisation, il y a un exil. Donc des gens ont dû partir. Et souvent, dans une situation d'exil, la terre perdue, la terre de l'enfance, elle est derrière soi, elle est dans sa tête, c'est des souvenirs. Sauf que là, en fait, ça s'incarnait dans les ruines du village. Donc ça m'intéressait beaucoup cette idée qu'une mémoire, en fait, qui d'habitude est dans la tête, elle s'incarne dans un lieu et dans des ruines.
J'ai lu ça, que les autorités demandaient aux gens de détruire les maisons avant la submersion. Est-ce que tu sais pourquoi ?
Pour des questions de sécurité, pour éviter que les bateaux et les nageurs se prennent les pieds dedans, et aussi pour éviter en fait qu'il y ait trop de vestiges qui flottent. Quand l'eau monte, en fait, ça emporterait les poutres de la charpente, enfin... Il y aurait tout un tas d'éléments de la maison et puis d'objets à l'intérieur, donc il a fallu qu'ils vident absolument tout, qui flotteraient à la surface du lac.
C'était aux habitantes et aux habitants de détruire leur propre maison ?
Alors non, c'était pas eux de le faire, mais là en l'occurrence, les propriétaires du château ont préféré le faire eux-mêmes, plutôt que de laisser cette besogne à des mains étrangères, comme je l'écris comme ça dans le livre.
Et dans le cas du village de Selles dont tu parlais tout à l'heure, du coup, les gens ont détruit les maisons pour rien.
C'est une bonne question parce qu'ils n'ont pas détruit les maisons, en fait, à Selles. C'était des gens qui ont beaucoup lutté contre la création du lac, qui ont été très engagés politiquement. Et je pense qu'ils ont attendu le dernier moment pour détruire leur maison. Et ils ont tellement attendu le dernier moment qu'une légende dit qu'ils ont été pris par les eaux et que c'est l'armée qui a dû venir en barque pour les aider à évacuer et à évacuer leurs affaires. Donc je pense que c'est pour ça que Selles n'a pas été détruit. Et donc aujourd'hui, ils ne peuvent que s'en féliciter, puisque c'est grâce à ça que le village peut revivre, quoi.